Lynn Joly est une cavalière bien connue du monde équestre. En janvier 2017, elle tombe de son cheval et perd l'usage de ses jambes. Après une longue réhabilitation, elle est déjà de retour en selle avec un nouvel objectif, les Jeux paralympiques de 2020. Comment et pourquoi revenir sur le terrain après une blessure sérieuse? On le découvre dans un instant au Signal. Kevin Breton au micro, bien heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Il reste seulement une semaine avant le début des Jeux paralympiques de Pyeongchang. On va en parler amplement. D'ailleurs, à chaque jour, on va vous donner des capsules informatives sur les résultats et les compétitions à suivre que j'aurai l'honneur de produire et de vous présenter. Ça va se glisser dans la grille horaire de Canal M tout au long des compétitions. Aujourd'hui, par contre, on ne parlera pas de Pyeongchang. On va plutôt parler d'une personne qui aspire à participer aux Jeux paralympiques d'été, ceux de 2020, qui vont se dérouler à Tokyo. Au bout du fil, en direct de l'Estrie, il y a la cavalière Lynn Joly. Bonjour, Lynn.
Bonjour.
Très heureux de vous parler aujourd'hui. Donc, vous, Lynn, le domaine équestre et les chevaux font partie intégrante de votre vie depuis que vous avez 16 ans. Avant qu'on parle peut-être de la place qu'occupe ce sport dans votre vie, j'aimerais qu'on revienne sur l'accident qui est survenu en janvier 2017 qui vous a fait perdre l'usage de vos jambes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé?
Oui, c'est suite à une chute à cheval bien banale que j'ai tombé, puis je me suis cassé le cervical C6, C7. Donc, j'ai perdu l'usage de mes jambes, puis j'ai aucun abdominaux, j'ai mes mains à 50%.
Puis ça s'est déroulé, parce que vous étiez entraîneur avant cet accident-là, puis c'est dans le cadre de vos fonctions d'entraîneur que l'accident s'est produit?
Oui, depuis 87, j'entraîne les chevaux, j'entraîne les gens. J'ai tombé plusieurs fois, je me suis jamais rien cassé, mais là, ça a été vraiment une grosse chute.
Est-ce que c'est en raison du cheval qui était trop débutant ou est-ce que vous avez une théorie sur ce qui a pu provoquer une chute aussi grave?
Non, c'est un cheval pas très âgé, puis il avait un surplus d'énergie, puis il était vraiment gros, trop fort pour moi, peut-être, puis fait que j'ai perdu le contrôle.
Vous avez, ça fait depuis l'âge de 16 ans, ça fait plusieurs années que vous travaillez dans ce domaine-là. Est-ce que ça vous avait déjà traversé l'esprit qu'une chute puisse vous entraîner des conséquences aussi graves?
Oui, ça aurait pu, mais c'est pas pire que prendre un accident d'auto, là.
Ouais, vous voyez ça avec cette philosophie-là, vous?
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail? Ça consistait à quoi avant l'accident? En fait, c'est vous avant qu'une personne puisse pouvoir monter à cheval puis vraiment faire confiance 100% à son animal, vous dressiez ces chevaux-là? Vous, dans le fond, vous les tempérez, comme on peut dire?
Oui, bien, il y en a des chevaux que je partais de zéro pour mettre parfait pour les gens, les entraîner pour les gens. Puis après ça, les gens continuaient à entraîner leurs chevaux. Une fois, ils emmenaient les chevaux juste parce qu'il y avait un petit défaut ou une manœuvre qu'ils voudraient accomplir. Puis j'effectuais la manœuvre. Donc, il y avait juste à peser ses pitons après.
Puis, c'est bien imagé, Lynn. Et puis, quand on parle de manœuvre en particulier, en fait, on peut penser à des sauts, par exemple, comme on voit des compétitions à la télévision?
Non, moi, je faisais plus de sauts. Je faisais juste du dressage. On danse avec les chevaux. On est assis à cheval, on fait des pas de côté, on fait des changements de pied, on fait des pirouettes. Souvent, on fait ça sur la musique aussi.
En parallèle à votre carrière d'entraîneur, vous avez aussi mené une carrière de compétition. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot? Ça consistait à quoi, ces compétitions équestres?
Oui, mais j'ai fait partie de l'équipe canadienne en 2005. J'ai gagné plusieurs championnats nationaux, j'ai gagné plusieurs concours à Canada et États-Unis. J'ai été en Floride tous les hivers d'habitude.
C'est une passion qui remonte à loin, celle que vous entraînez pour les chevaux. Qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce qui vous a accroché particulièrement dans cette discipline?
C'est une bête fabuleuse. J'ai commencé mes cours à l'âge de 8 ans. J'ai eu mon premier cheval à 14 ans. J'ai commencé ma ferme à 87. Fait que c'est une passion. Vraiment, c'est une belle bête, là.
Puis c'est une sensation. Est-ce que vous direz que c'est une sensation que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie, de pouvoir monter un cheval?
Ben, ceux qui aiment les animaux, oui. Certain.
C'est cette
La plus bonne école.
sensation. Cette sensation, en fait, d'avoir un animal qui est capable de répondre à tes moindres demandes, à tes moindres mouvements, ça prend aussi puis tous les cavaliers, tous les cavalières le disent, là, ça prend une confiance qui est bien établie entre la bête, l'animal et le cavalier. Comment est-ce qu'on développe cette confiance-là avec un cheval?
Mais c'est sûr, plusieurs personnes embarquent sur un cheval sans savoir quoi faire, puis il arrive plusieurs accidents, puis ils aiment pas l'équitation pour ça. Mais si tu commences dans une école, tu apprends les bons mouvements, tu apprends à comprendre le cheval, tu apprends tous les gestes, les moindres gestes que tu fais, le cheval peut comprendre qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment la piqûre, là.
Puis qu'est-ce qui fait que ça va cliquer avec un cheval ou avec un autre? C'est une question de caractère.
Oui, c'est vraiment le caractère. C'est à peu près comme un homme puis une femme. Ça marche ou ça marche pas, là.
Puis vous, vous décririez comment votre caractère?
Ben, c'est sévère. J'aime plutôt les chevaux qui ont du caractère parce que c'est des chevaux qui vont comme plus loin en compétition. J'aime les chevaux énergiques. J'aime. C'est vraiment la compétition que j'aime.
Puis vos personnalités étaient compatibles de votre le à votre cheval et à vous?
Oui, moi j'en ai tout en deux que je garde pour la compétition. Les chevaux personnels à moi, là, puis avec eux, la confiance, le moindre geste de mes fesses, de mes jambes, ça cliquait toujours, là.
Revenons à l'incident de janvier 2017. Ça se passe dans une écurie. Au moment où vous êtes tombé sur la tête, est-ce que vous avez réalisé sur le coup qu'il y avait quelque chose qui clochait dans vos jambes?
Oui, quand j'ai tombé, j'ai senti mon cou craquer. Puis à partir du cou, j'étais paralysée. Ça veut dire que j'avais aucune sensation dans mes mains, dans mes jambes. À partir du cou, là, il n'y avait plus rien qui bougeait, là. J'étais quadriplégique au début.
Puis est-ce qu'il y avait des gens autour de vous pour vous aider ou vous épauler ou?
Oui, ben, la propriétaire du cheval était là pour prendre une vidéo.
OK.
Et j'avais des élèves aussi qui étaient là pour prendre les cours après ma séance d'entraînement.
Donc, est-ce que votre accident s'est retrouvé à être capturé par vidéo?
Non.
Non, OK, bon. Ça, c'est pas des souvenirs dont on veut se rappeler de toute façon,
Non, pas
nécessairement.
du tout.
Après ça, ben, il y a le voyage en ambulance, là, je le devine, jusqu'à l'hôpital. Est-ce que vous êtes en Estrie? Est-ce que vous êtes allé au CHU de Sherbrooke ou?
Oui, j'étais même pas 2 minutes dessus.
OK, bon, ben ça joue en votre faveur au moins. Après ça a été deux opérations. Pourquoi pas une seulement?
Ben, j'ai été opérée au CHU. Après ça, au CHU, ils m'ont transférée à Sacré-Cœur parce que j'avais de la misère à respirer par moi-même. Et à Sacré-Cœur, ils ont remarqué que la moelle était encore compressée. Fait qu'ils m'ont demandé si je voulais faire une autre tentative pour aider à améliorer. Effectivement, j'ai regagné mes mains à 50% aussi, que j'aurais pas eu sans ça.
À la suite de l'accident. Donc là, pour nous donner une idée, par exemple, est-ce que c'est au niveau des abdominaux? Est-ce que c'est paralysé pour vous ou?
Oui, j'ai plus rien à part ça. Les abdominaux, j'ai plus rien. Les mains, je sont 50%. Les jambes, j'ai plus rien non plus.
Est-ce que le processus de réadaptation, j'imagine, n'est pas terminé? Est-ce que vous continuez à faire des exercices pour aller chercher des gains à chaque jour ou?
Oui, je fais de la natation. Je m'entraîne dans un gym privé avec c'est mon frère. Puis ensuite de ça, j'ai une équipe d'équithérapie qui m'aide. Je monte 4 fois par semaine. Puis ensuite, j'ai aussi une place à Caroline Mainville, qui est un centre de réadaptation, que là, je fais de l'hypothérapie.
C'est quoi, de l'hypothérapie?
L'hypothérapie, c'est plus des exercices d'équilibre, de travailler mes abdominaux, aller chercher vraiment plus de sensations.
Est-ce que vous avez parlé aussi, Lynn, d'équithérapie? Est-ce que ben, j'imagine que venant du domaine équestre, vous en aviez déjà entendu parler. Qu'est-ce que ça vous amène comme bienfait, en fait, le contact avec le cheval?
Ben, on dirait que je suis debout, on dirait que je marche. Le feeling du cheval quand il marche, c'est mes jambes. On dirait que là, je suis plus. Ben, je suis plus paralysée, là. On dirait que là, je peux aller où ce que je veux.
C'est comme marcher par procuration.
Oui.
Est-ce que on va prendre une petite pause musicale dans un instant, mais avant de s'y rendre, est-ce qu'il y a déjà des médecins ou une équipe médicale qui se sont avancés à vous donner un pronostic sur le potentiel physique que vous pourriez regagner dans les prochaines années?
Non, chaque personne est individuelle dans son processus. Ok, il y en a à l'hôpital qui étaient paralysés pareil comme moi, puis qu'eux autres, ils n'ont rien récupéré. Puis moi, j'étais chanceuse d'en récupérer beaucoup, puis j'en prends encore.
Puis vous avez maintenant en tête de continuer votre passion, même de vous rendre jusqu'aux Jeux paralympiques. On parle avec Lynn Joly, qui est cavalière, ancien entraîneur équestre. On va continuer la discussion dans un instant au signal, donc restez là. De retour au signal, toujours en compagnie de Lynn Joly, qui a subi un accident à cheval en janvier 2017 et qui souhaite maintenant, ben, non seulement retourner en selle, mais jusqu'à Tokyo en 2020 aux Jeux paralympiques. Elle continue son processus de réadaptation. Lynn, j'aimerais savoir, entre le moment que l'accident est survenu et le moment où vous avez eu le désir de remonter à cheval, est-ce qu'il y a eu une période tampon où, dès le départ, c'était clair dans votre tête que vous vouliez poursuivre votre passion?
C'était clair que je voulais continuer ma passion. C'est sûr qu'au début, je pensais pas que ce serait si difficile, mais à force de travailler, ça va bien.
Là, on a quand même, tu sais, on a déjà vu, par exemple, des compétitions paralympiques de sport équestre à la télévision, mais il reste que pour quelqu'un qui connaît pas très bien le domaine, ça peut être difficile de savoir comment une personne qui n'a pas l'usage de ses jambes fait pour monter un cheval. Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont nécessaires? Ça se passe comment dans votre cas?
Oui, ben j'ai une personne qui entraîne mon cheval pour comme si elle avait pas de jambes, fait qu'elle a fait tout, elle apprend toutes les manœuvres. Puis moi, après ça, ben j'essaye à cheval de représenter les mêmes choses.
Puis
C'est sûr qu'à ce moment-ci, c'est pas fait encore, là. J'ai 3 personnes pour me faire monter à cheval.
est-ce qu'il y a aussi des adaptations en termes d'équipement qui sont nécessaires pour vous tenir?
Oui, j'ai le hippo libre, c'est une selle qu'on met des adaptations dessus pour maintenir le ventre, le dos. Fait que là, j'ai commencé avec ça. Puis après ça, je vais devoir avoir une selle à ma forme de mes jambes qui vont attacher mes jambes, mes pieds,
OK.
que je vais pouvoir plus être, voyons, mieux encadré.
Vous avez dit que ça s'appelle Hippo Libre. On mettra une image qu'on trouvera sur Internet, sur notre page web, si jamais les gens sont curieux à savoir ça ressemble à quoi. Et puis, ben, Eline, pendant votre carrière, avant votre accident, vous aviez déjà vu des personnes avec un handicap monter à cheval. Qu'est-ce que vous connaissiez de ce domaine-là avant de rentrer dedans de force, là?
Ben, je les avais vus parce qu'on fait des je faisais des concours internationaux puis nationaux. J'avais vu les classes, mais j'avais regardé, mais sans jamais penser que moi je serais là un jour.
On devine bien. Est-ce qu'il y a des différences entre les compétitions pour le domaine paralympique, le secteur paralympique et le secteur olympique, ou c'est à peu près comme les mêmes catégories, les mêmes critères, puis les mêmes évaluations des juges?
Ben c'est sûr c'est différent parce qu'on n'a pas ouais, on n'a pas les mêmes jambes puis tout ça, puis les chevaux sont moins performants, mais c'est sûr qu'il y a aussi des classements, comme je vais faire ma certification de classement en mai au concours d'Ottawa. Puis là, je fais une clinique aussi pour savoir toutes mes adaptations, que j'ai le droit ou pas droit au mois de mars.
C'est comme les premières étapes qui mèneraient vers une qualification paralympique? En ce moment, votre entraînement, vous vous retrouvez 4 fois par semaine sur un cheval, là, toujours en fonction de la météo. Ça ressemble à quoi un entraînement quand on doit conjuguer entraînement et réadaptation?
Ben, c'est le centre thérapeutique Cheval de Soie qui vient m'aider 4 fois par semaine. Puis Puis l'entraînement consiste, j'ai un meneur pour mon cheval, j'ai deux personnes chaque côté. Puis on essaie de faire juste les manœuvres au pas, d'arrêter, de repartir, sans que je perde l'équilibre, de commencer à utiliser mes mains aussi pour conduire le cheval. Puis eux, au cas où qu'il arrive quelque chose, sont là, tous les côtés, pour m'empêcher de tomber ou que le cheval aille trop vite.
Est-ce que, éventuellement, vous aimeriez utiliser ça comme une opportunité d'encourager d'autres personnes avec un handicap à suivre vos traces puis partager votre grande expérience avec ces personnes-là qui ont des ambitions semblables?
Oui, j'adorerais ça.
Ça serait comme une bonne manière de compenser.
Oui.
Tout à fait. Par contre, d'un point de vue plus logistique, un écurie, ça doit pas être l'environnement le plus accessible pour une personne en fauteuil roulant.
Non. Je donne des cours partout. Je donnais des cours partout dans la région. Sherbrooke, Québec, puis tout ça. Puis je regardais les écuries, comment c'était adapté. Puis même si je voudrais recommencer à donner des cours, il n'y a aucune écurie qui est adaptée pour moi. Là.
Uh-huh.
La mienne, mon conjoint, l'a tout adapté. Mais les autres ne le sont pas. Là.
Puis on devine que juste ça, ça peut être un frein au développement du sport paralympique. Parce que si des jeunes qui souhaitent pratiquer ce sport-là peuvent même pas se rendre dans une écurie à prime abord, ça part mal. Là.
C'est sûr que où est-ce qu'ils vont aller, comme le centre thérapeutique Cheval de Soie ou Caroline Mainville, ou chez nous, tout est adapté. Fait qu'il faut qu'ils cherchent la place qui est adaptée pour eux, puis avoir les personnes compétentes pour les aider aussi.
Ces endroits-là dont vous nous avez mentionné, est-ce qu'ils sont surtout en Estrie?
Caroline Mainville est sur Saint-Charles-sur-Richelieu.
OK.
Puis le Cheval de Soie est ici en Estrie, à Beauvoir.
Super. Vous nous avez parlé, Lynn, donc des adaptations, de l'équipement qui coûte des coûts supplémentaires, mais on n'a pas parlé du coût du cheval en tant que tel. Est-ce qu'on peut avoir une idée, ça représente un investissement de combien pour quelqu'un qui voudrait avoir son propre cheval?
Ben c'est sûr, c'est vraiment c'est un sport dispendieux. J'aurais mieux jouer au tennis que faire du cheval. Mais juste la pension, on peut penser à 400 par mois, là. À part les forgerons, à part le vétérinaire. On peut mettre proche à 6 000 $ par année, facile.
Wow! Puis ça considère pas tous les équipements et les adaptations nécessaires qu'il faut ajouter. Puis dans votre cas, ben vous m'avez parlé d'une clinique aussi. Ça aussi, j'imagine qu'il y a des frais d'associés à ça.
Oui, c'est toujours des 1 000 $ qui revolent à chaque fois.
Mm-hmm. Donc là, vous êtes en plein dans une campagne de sociofinancement. Vous sollicitez l'aide du public pour pouvoir vous permettre de vous trouver un petit coussin qui va vous permettre d'atteindre votre rêve paralympique?
Oui. On a organisé un super bénéfice au domaine Jolimont.
Mm-hmm.
J'ai eu beaucoup d'argent. Les gens ont été très généreux. Il y a Cheval Québec aussi qui ont fait une campagne aussi que ça m'a aidé beaucoup. Puis j'ai encore d'autres soupers qui s'en viennent.
Puis si on veut suivre vos activités ou encore vous encourager, soit par de l'argent ou autrement, on peut se rendre sur une page Internet en particulier?
Oui, j'ai une page Athlète Lynn Jolie.
OK. Sur Facebook?
Oui.
C'est ça.
Puis je vais partir aussi une fondation. Donc les gens qui voudront avoir des crédits d'impôt, des choses comme ça, pourront en avoir.
Wow! C'est une fondation qui devrait voir le jour prochainement ou...
Oui, je travaille là-dessus.
Super. Bon, ben Lynn, on vous souhaite le meilleur des succès dans votre poursuite, bien en selle vers les Jeux paralympiques de 2020. Ou en tout cas, on se croise les doigts, puis on est plusieurs à vous encourager derrière vous.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, puis de m'avoir fait découvrir, je l'avoue, un sport que je connaissais beaucoup, le domaine équestre. C'est vraiment un sport fascinant. Merci beaucoup, Lynn. Bon courage.
Merci.
Et on termine l'émission avec quelques nouvelles en bref. Plusieurs événements intéressants dans les prochains jours. Je vais vous envoyer les invitations. Mais tout d'abord, un communiqué de presse tiré du site Comité paralympique Canada. La Fondation paralympique canadienne a atteint le tiers de son objectif de 6 millions de dollars pour la campagne Imagination grâce aux généreux dons de 1 million de dollars de bons départs de Canadian Tire et de 500 000 dollars d'autres partenaires principaux de la campagne. La campagne de financement historique Imagination vise à donner la chance à tous les Canadiens avec un handicap de faire du sport et de devenir athlètes. En recueillant 6 millions de dollars en 4 ans, la campagne bénéficiera aussi d'un engagement équivalent de 4 millions du gouvernement du Canada pour un investissement total sans précédent de 10 millions pour les Canadiens avec un handicap. Bon départ de Canadian Tire et Pfizer Canada se sont tous deux engagés comme principaux partenaires, en plus de leur engagement de longue date envers le mouvement paralympique. Grâce au don de 1 million de Canadian Tire dans le cadre de son initiative « Parce qu'on veut tous jouer » et à la contribution de 500 000 $ de Pfizer Canada et à un autre demi-million provenant d'autres organisations et particuliers, la campagne connaît tout un départ. Toutefois, plus de soutien des entreprises et des particuliers demeure nécessaire pour recueillir les 4 millions de $ restants d'ici 2021 afin d'avoir une plus grande influence sur la communauté du parasport canadien. Les fonds recueillis serviront deux objectifs, la formation initiale des athlètes et l'élimination des barrières, empêchant les personnes avec un handicap de devenir des athlètes, tout en offrant plus de soutien aux athlètes de la prochaine génération qui pourraient représenter le Canada à l'échelle mondiale dans les domaines suivants, accompagnement, entraînement, compétition, sciences et médecines sportives et meilleur équipement. La Fondation paralympique canadienne représente le volet philanthropique du Comité paralympique et son mandat consiste à recueillir des fonds pour soutenir les différents programmes. On rappelle qu'il y a deux semaines également, il y avait la Coupe Parafort qui se déroulait du côté de Toronto, qui servait aussi à amasser de l'argent via des entreprises qui participaient à un genre de bootcamp ou de team building pour les employés qui pouvaient alors s'initier à différents sports comme du basketball en fauteuil roulant. On avait reçu Catherine de la du Comité paralympique canadien pour nous en dire plus sur le sujet et tous les résultats sont disponibles sur leur site internet pour les curieux. Le beau temps est de retour. Peut-être que vous avez le goût de sortir ou d'essayer des nouveaux sports ou en tout cas de découvrir de nouveaux sports. On vous parle souvent de boccia, mais peut-être que vous en avez jamais vu à l'œuvre. Eh bien, demain, le 3 mars et le 4 mars, aura lieu le tournoi du Centre du Québec à Victoriaville pour les athlètes qui pratiquent le boccia. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre au AQSPC.ca ou AQSPC.ca ou encore contacter Elisabeth Désiel à edesiel@sportpc.qc.ca pour obtenir plus de détails. Toujours dans le même ordre d'idées, depuis hier, le 1er mars, on offre des cours pour débutants de tennis en fauteuil roulant, puis je dois avouer que je suis assez tenté de tenter ma chance. C'est Paul Pépin, joueur tennisman en fauteuil roulant, qui va offrir des cours tous les jeudis du mois de mars au gymnase du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Ça se trouve à Montréal. C'est une invitation de l'Association de tennis en fauteuil roulant de la région de Montréal. Donc les dates hier, le 1er, mais également le 8, le 15, le 22 et le 28. Et on nous dit que vous soyez débutant ou n'ayez jamais même tenu une raquette dans vos mains. Si le tennis vous intéresse et que vous êtes en fauteuil roulant, ces cours s'adressent à vous. Un joueur expérimenté du circuit québécois, Paul Pépin, vous guidera dans le développement d'aptitudes de base au tennis en fauteuil roulant. Ces acquis vous permettront de fouler avec confiance les terrains de tennis de votre localité cet été. Ça a lieu en soirée de 17h à 18h. Je rappelle que c'est au gymnase du Centre Lucie Bruno. C'est situé au 2275 avenue Laurier-Est à Montréal. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez écrire directement à l'entraîneur M. Pépin, paulpepin9@gmail.com ou encore en composant le 514-830-2926, le 514-830-2926. Je vous tiens au courant si jamais moi je me laisse tenter. Autre invitation pour le mois de mars, cette fois, ce n'est pas nécessairement pour du sport, mais c'est pour encourager un organisme qui en fait beaucoup pour l'intégration à la vie active des personnes avec un handicap, comme le donne leur nom, le CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, ben elle va tenir, ce centre va tenir leur soirée bénéfice annuelle Vin Fromage qui va avoir lieu le 21 mars 2018. Vous allez pouvoir déguster de bons fromages d'ici et découvrir des vins sélectionnés avec soin par M. Yann Janvier, le sommelier. Donc, c'est le mercredi 21 mars au Théâtre Paradoxe sur le boulevard Monk à Montréal. C'est 150 $ par personne. Il y a également des forfaits de groupe. Les portes s'ouvrent à 17 h et c'est une bonne manière d'amasser de l'argent pour permettre de tenir leurs nombreuses activités. Ils ont du hockey cosum en fauteuil roulant, de la crosse en fauteuil roulant, du basketball. Puis il y a vraiment beaucoup d'athlètes qui passent par leur service comme tremplin vers de plus grandes compétitions. Une belle manière de les encourager. Moi, si je me mets pas au tennis, peut-être que je vais me mettre au vin tout simplement. Et en rafale, en terminant, bien, on approche à grands pas la 35e édition du défi sportif Altergo. Je vous parlais la semaine dernière des arrêts de la Flandre. Hein. En fait, il va y avoir un relais qui va s'arrêter à différents endroits. Ça a commencé le 16 février dernier et ça se poursuit jusqu'au 23 avril, là, qui marque le coup d'envoi de ce grand rassemblement sportif qui a lieu au complexe sportif Claude Robillard. Il y a encore des dates à mettre à votre agenda. Donc, le samedi 17 mars, l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, vous vous rappelez peut-être, on a déjà reçu ici à l'émission José Robello, qui pratique du volleyball assis. Ben, ils vont offrir du hockey luge, du volleyball assis et du basketball en fauteuil roulant. Une belle occasion de découvrir ces sports si on ne les connaît pas. Également, le 24 mars, au Centre sportif Marc Simoneau, on pourra s'initier au boccia, au mini-curling et également au volleyball assis. De retour à Montréal, au complexe sportif Marie-Victorin, de l'initiation au basketball, mais également une pratique de power chair soccer, un sport assez spectaculaire si vous le connaissez pas. C'est vraiment impressionnant à voir. Et le lundi 23 avril, comme je le mentionnais, c'est l'arrivée de la flamme à l'ouverture officielle du 35e défi. C'est sûr et certain qu'on va en parler amplement au Signal dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que la semaine prochaine, bien, c'est le début des Jeux paralympiques et qu'à partir du 9, donc sur les ondes de Canal M, vous allez entendre les résultats des meilleures performances des athlètes canadiens, mais aussi des autres athlètes et toutes les autres compétitions sur lesquelles il faut garder un œil. J'aurai le plaisir de produire ça aussitôt que notre metteur en ondes, Mathieu, m'explique un peu comment fonctionne la machine dans un instant. J'en profite pour le remercier pour son travail aujourd'hui, remercier Christiane également. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à notre invité de la journée, Lynn Jolie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, on garde le sourire.